dernier livre de la Bible et du Nouveau Testament. Apocalypse, chapitre 2. Jésus lui-même va écrire. Il envoie son message à travers l'ange qu'il donne à Jean, qui va l'écrire, qui va le mettre sur du papier, qui va l'envoyer à ses églises. Mais malgré ses intermédiaires, elle est tout aussi bien la parole de Jésus-Christ. Et on peut dire, donc, même après toutes ces années, elle demeure aussi réellement et véritablement la parole de Jésus-Christ aujourd'hui. Il écrit d'abord à Éphèse, c'est un peu l'église mère de toutes ces églises, et il dit, chapitre 2, verset 1, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, Jésus tient donc ses étoiles dans ses mains et il dit, verset 2, « Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais. » Les œuvres sont externes et internes. Et il dit, verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu les as éprouvés, que ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Alors, on a noté que nous pouvons diviser les compliments que Jésus donne à cette église en trois catégories. Après avoir dit « Je connais tes œuvres », ce qui est un commentaire très très large, il va parler de tout ce qui suit. Il va dire juste après « Je connais ton travail et ta persévérance. » On a dit ces deux choses vont ensemble. Parce que la persévérance n'est jamais une vertu en elle-même, toute seule, elle ne vaut pas grand-chose. La persévérance dans le péché, ce n'est pas une bonne chose. On appelle ça aussi du jusqu'au boutisme, hein, des gens qui persévèrent quand ils ne devraient plus persévérer. Ce sont des choses qui ne sont pas louables. Donc ces deux choses vont ensemble. Je connais ton travail et ta persévérance dans le travail. Donc on avait dit que Jésus loue donc leur persistance dans le travail. Et puis, il y a une deuxième chose. Qu'est-ce qu'il dit juste après ? Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Là, on voit que ces choses vont ensemble. Jésus semble parler d'un seul groupe, et il parle de leur pureté face à l'erreur. Ce sera le thème ce soir. Et puis, il semble passer à une troisième chose quand il dit, au verset 3, que tu as eu de la persévérance. On a déjà vu ce mot. Et on s'est dit, bon, ça ne va jamais tout seul. Non, ici non plus. Dans quel domaine ici, la persévérance? Pas dans le travail, mais dans la persévérance que tu as, quoi? Souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. C'est comme ça, c'est pour ça que c'est la persévérance. Tu ne t'es point lassé. Et c'est donc la persévérance dans l'affliction, dans la souffrance. Vous pouvez les numéroter même si vous voulez. Donc on a ces trois choses. La persistance dans le travail, la pureté face à l'erreur et la persévérance dans l'affliction. Jésus loue d'abord leur persistance dans le travail. Je connais ton travail, ta persévérance. Hein, la peine que tu prends, ton labeur, tes labeurs. Mais il dit une deuxième chose ici. Et notez, on va prendre cette deuxième partie du verset 2, qui a trois verbes. Il y a trois verbes. C'est quoi le premier verbe ici? Voilà. Est-ce qu'ils sont là? Ouais, ils viennent tous ensemble, on va les trouver facilement. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ou dans une autre traduction, tu les as mis à l'épreuve. Et puis, tu les as trouvés menteurs. Tu as décelé qu'ils mentaient, dit notre traduction. Et le premier, bien sûr, tu ne peux donc pas les supporter. On va revenir, en fait, même sur ça. Je pensais le faire ce soir, mais après, j'ai réalisé qu'on n'aura pas le temps. Donc, Jésus loue leur pureté face à l'erreur. Le mot grec traduit « supporter » au verset 2. Vous voyez où il dit « tu ne peux supporter » se trouve également au verset 3. Le même mot. Est-ce que vous pouvez le trouver au verset 3? C'est traduit différemment, mais c'est le même mot. Quoi? Non, le verbe... Non, persévérance se trouve aussi. Mais le verbe où il dit « tu ne peux supporter », ce mot, ce verbe « supporter », c'est pas persévérance, c'est... Tu as souffert. Oui, c'est ce mot-là. Hein. Voilà, je les entourer pour que vous puissiez le voir. Vous pouvez faire un trait, si vous voulez, entre les deux mots. Le mot traduit supporter au verset 2 et traduit souffrir au verset 3. Et en français, le mot souffrir peut avoir ces deux sens. Supporter la douleur, ça c'est souffrir, mais si on souffre quelqu'un de faire quelque chose, on le permet ou on tolère cette chose. Et d'ailleurs, c'est comme cela que plusieurs traductions traduisent ce mot dans les deux occurrences, à l'instar du matin, Martin par exemple qui dit « Je sais que tu ne peux souffrir les méchants », mais après il dit au verset 3 « Mais que... tu as souffert à cause de mon nom. » Et si on considère que c'est le même mot, on voit quand même un contraste qui est important dans la pensée du Seigneur. Jésus dit, « Je suis heureux de voir que vous refusez de souffrir quelque chose et de voir que vous êtes prêt à souffrir d'autres choses. » Il y a des choses que des chrétiens vont souffrir, ils vont tolérer, même contre eux-mêmes. Il y a des injustices que les chrétiens vont tolérer, ils vont souffrir. Et il y a des choses qu'ils ne vont pas souffrir, qu'ils ne vont pas tolérer. Donc des choses qu'on peut tolérer, des choses commises contre nous, même des injustices, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Alors c'est quoi exactement ? Qu'on ne peut tolérer, que Jésus est content de voir qu'ils ne peuvent tolérer dans cette ville. Il serait mieux de dire qui, pas quoi. parce qu'on voit qu'il parle des personnes. Ce sont des personnes que cette Église ne peut tolérer. Alors, je vous pose la question, est-ce que ça vous semble évangélique et chrétien de ne pas supporter certaines personnes? Jésus dit, je suis heureux de voir que vous ne pouvez supporter certaines personnes. Et ces personnes sont identifiées par trois appellations. Et encore, je mets le texte ici parce que je veux chaque fois qu'on engage avec le texte. On s'engage avec le texte. Il faut interagir avec le texte biblique. Alors, ces personnes sont identifiées par trois appellations. Quelle est la première? Voilà, ce sont des méchants. Très bien. Et puis quoi? Ceux qui se disent apôtres, oui, et qui ne sont pas, oui, donc de faux apôtres, très bien. Et troisièmement, ce sont des menteurs. Voilà. Ça, c'est trois noms pour le même groupe de personnes. Donc, on veut considérer ces deux choses que je vous donne ici. Ceux qui menacent la pureté de l'Église, et on a trouvé trois mots pour les identifier. Hein. Méchants, faux apôtres et menteurs. Et puis, deuxièmement, peut-être la semaine prochaine, la réponse de l'Église à ceux qui menacent sa pureté. Et là aussi, on a vu trois verbes, n'est-ce pas? Ils vont trouver qu'ils sont menteurs, ils vont les éprouver, et ils ne vont pas les tolérer. Je n'ai pas dans ma tête exactement. Donc, ce soir, on va regarder de près ceux qui menacent la pureté de l'Église. La lettre A, là. Alors, qui sont ces personnes? Elles sont peut-être les mêmes que celles mentionnées au verset 6. Regardez le verset 6. Il a dit, parce qu'il vient de dire quelque chose de négatif, et là il revient, il dit, mais tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Jésus reparlera des Nicolaïtes dans sa lettre aux chrétiens de Pergame, c'est sa troisième lettre. Regardez le verset 15 du même chapitre. Il dit de même, toi aussi tu as des... Et là, il n'est pas heureux avec cette église. Il dit, parce que tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc là, nous voyons que l'église d'Éphèse, en fait, refusait de tolérer ces gens, mais que dans l'église de Pergame, ces personnes étaient tolérées. On trouve la même chose aujourd'hui, que dans certaines églises, certaines fausses doctrines et faux docteurs sont tolérés, et dans d'autres, ils ne sont pas tolérés. C'est pas le même, c'est jamais la même situation dans chaque église. Les églises sont différentes les unes des autres. Alors, je ne pense pas que le but ici soit de déceler tout ce qu'enseignaient les Nicolaïtes. Car la lettre aux Éphésiens, dans cette lettre, Christ ne donne pas de détails sur leurs pratiques. Mais en revanche, ce à quoi Jésus attire leur attention, et donc notre attention aussi, est à leur fausse appellation. Quand on leur dit, mais tu t'appelles comment? Ils vont dire, ben, je m'appelle apôtre. Apôtre. Et c'était faux. Et à leur caractère tordu, et malhonnête. Alors, qui sont ces personnes? Premièrement, il dit qu'ils sont mauvais. Et vous avez le mot méchant, je crois, dans votre texte. Mais nous trouvons ce mot traduit méchant dans votre Bible dans la bouche du Seigneur quand il parle d'un méchant serviteur qui se dit que son maître va beaucoup tarder à venir. C'est en Matthieu 24, 48. C'est encore le même mot que les chefs juifs ont utilisé de Jésus. Nous avons vu ça il y a 15 jours. Quand ils disent à Pilate, c'est en Jean 18, 30, ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, et c'est ce mot, si Jésus n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. C'est un malfaiteur. Et Jésus prend ce même mot pour parler de ces gens. Alors, qu'est-ce qui rend un homme malfaiteur ou méchant? Je crois que le problème avec le mot méchant, c'est que le contraire, quand on pense à méchant, le contraire de méchant, c'est quoi? C'est plutôt gentil, hein? Qu'est-ce que tu as dit, Vanny? Ah oui, oui, mais gentil, on est d'accord? Quand un garçon qui est gentil ou il est méchant. Mais dans la Bible, on peut être gentil et méchant en même temps. Parce que méchant dans le contexte des Saintes Écritures n'est pas le contraire de gentil, c'est le contraire de bon. De bon. Ce mot est souvent traduit mal. Hein, des œuvres mauvaises, par exemple. Donc, je vous donne par exemple où on trouve ce même mot en 1 Pierre 3, 11 et 12. Qu'il s'éloigne du quoi? Voilà. Du mal. C'est ce même mot. Traduit méchant en Apocalypse 2:2. Et qu'il fasse, qu'est-ce qui est le contraire donc? Qu'il fasse pas le mal, mais qu'il fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font... Et encore le même mot, qui font le mal. Voilà. Et ceux qui font le mal, au verset 12, sont contrastés à qui? Dans le même verset. Au juste. Ouais. Donc c'est le contraire, c'est le contraire des justes. Ils sont donc mauvais. Et j'ai trouvé une seule traduction que je ne connais même pas, mais qui disait cela. Tu ne peux souffrir les mauvais. Alors vraiment une question qu'il faut se poser. Est-ce que nous acceptons qu'il puisse y avoir dans le domaine du christianisme des mauvais? Des mauvais. Et pourquoi sont-ils mauvais? Ce n'est pas une question de gentillesse. Ces gens peuvent être parfois très aimables, serviables, agréables, charmants, bienveillants, accueillants, etc. Et être au même temps mauvais. Et c'est un danger pour nous. Parce que l'Esprit dit en 1 Corinthiens 15, 33, où il utilise le même mot encore, « Ne vous y trompez pas, les... » Mauvaise compagnie. Les mauvaises compagnies. Encore ce même adjectif. Hein, qui, en Apocalypse, c'est juste un adjectif, mais on sait qu'il parle des personnes. Donc, il faut dire des hommes mauvais ou des personnes mauvaises. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, voici comment Jésus considère certaines personnes. Ils sont mauvais. Mauvais pour l'Église. Donc, sans savoir plus, il faut accepter cette réalité. Et notons le deuxième caractéristique. Je sais que tu ne peux supporter les mauvais, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Alors moi, je l'ai mis comme ceci. Ils sont mauvais. Ils s'attribuent une autorité doctrinale que Jésus-Christ ne reconnaît pas. Ce sont des gens qui s'attribuent à eux-mêmes une certaine autorité. Hein, ils viennent à l'église en disant, voilà, je suis un tel, je suis apôtre. Ils se disent apôtre. Et le mot lui-même, apôtre, veut dire quoi ? Envoyé. Ouais, envoyé. Donc, envoyé de qui ? Sans doute dans le contexte, ceux qui communiquaient, c'est qu'ils sont envoyés de qui ? Oui, de Dieu, et même on peut dire de Christ. Et c'est pour cela que Christ dit, ils se disent apôtres, mais ils ne le sont pas. C'est cela qui les rend dangereux pour la pureté de l'Église. S'ils se présentaient comme étant envoyés de Satan, ou envoyés d'un tel, ce serait clair. Et Christ aurait dit, c'est vrai, ils sont envoyés d'un tel. Mais ils disent être envoyés quand ils ne sont pas, communiquent l'idée qu'ils se disent envoyés de Christ, envoyés de Jésus-Christ. Leur identité est, si vous voulez, dissimulée et ils se présentent comme être autres qu'ils sont en vérité. Gardez la page, mais trouvez 2 Corinthiens 11. Pas 1 Corinthiens 11, mais 2 Corinthiens 11. Et le verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 13. L'apôtre Paul parle ici de ces hommes qui sont quoi ? Ils sont, oui, de faux apôtres. Encore, ils se disent envoyés, mais ils ne le sont pas. De faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de qui ? De Christ. Ouais. Et puis il dit, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà, donc ils se déguisent en apôtres de Jésus-Christ. Je crois que, pour revenir à notre texte, je crois que c'est ce qui se passe ici, écrit plusieurs années, même après 2 Corinthiens. Il n'y a pas d'apôtres de Jésus-Christ de nos jours dans le sens strict. Et donc si quelqu'un se présente comme un apôtre de Jésus-Christ, vous pouvez dire avec confiance, ils se disent apôtres, et ils ne le sont pas. Mais même au sens large d'être envoyé, il y a beaucoup qui se disent envoyés de Christ. Beaucoup prétendent avoir un mot de Dieu quand ils ne l'ont pas. Je ne le recommande pas, mais si vous allez sur Internet, vous allez trouver tout et son contraire prêcher au nom de Christ. Tout y est, même des choses les plus farfelues qu'on puisse imaginer. Tout prêcher au nom de Jésus-Christ qui a écrit cette lettre. Et il y a une très grande confusion dans le monde dit chrétien. Et nous devons commencer à résoudre ce problème en se disant ceci. Tout le monde qui se dit envoyé de Christ ne l'est pas. Ça, c'est juste un point qu'il faut accepter. Tout le monde qui se dit envoyé de Jésus-Christ ne l'est pas. C'est une réalité déjà du temps de Paul. Il écrit aux Corinthiens, il y a des faux apôtres. C'est que 35 ans après la mort de Jésus-Christ. C'est encore une réalité au temps de Jean et c'est encore une réalité de nos jours. Tout le monde n'a pas raison. Il ne faut pas être crédule. Même le monde vous dit, il ne faut pas être crédule dans le domaine politique, dans le monde économique, dans le monde médical, ou dans le monde religieux. Et notez ce qui est dit ici des Béréens. Il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. parle pas des chrétiens à Thessalonique, parce qu'il va leur dire dans les lettres que vous avez reçu avec foi la parole que nous vous avons amenée. Mais il parle des juifs, des autres juifs. Mais même les juifs à Bérée, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. D'une façon ou d'une autre, ils avaient accès aux Écritures. Ça, c'est l'Ancien Testament dont ils parlent. Probablement à la synagogue. Et ils se trouvaient là en petit groupe, en train de lire, en train de discuter. Paul disait quelque chose et... Mais est-ce que c'est vrai? Ils regardaient dans les Écritures. Ces Juifs sont appelés plus nobles parce qu'ils ont examiné les Écritures, même si celui qui leur prêchait était véritablement l'apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, même quand c'est Paul qui prêche, c'est bien d'examiner les anciens, l'Ancien Testament, pour voir si ces choses sont exactes. Pourquoi? Parce que Paul n'a pas peur du texte biblique. Il n'a pas peur de l'Ancien Testament. Quelqu'un qui prêche la vérité n'a pas peur d'être examiné par la parole. Un pasteur, un prédicateur est avant tout un héros, H-E-R-A-U-T, qui veut dire un officier chargé de faire des publications solennelles, ou un officier public dont le rôle est de transmettre les messages jugés les plus importants. Ça, c'est le rôle d'un prédicateur, d'un pasteur ou d'un chrétien qui amène la parole de Dieu à quelqu'un d'autre. Nous sommes des héros. Et en tant que tel, l'autorité est liée à l'exactitude du message. Un héros, il arrive, il dit « J'ai un message du roi ». Si ce qu'il dit est vraiment ce que dit le roi, il a toute l'autorité du roi. Mais s'il invente des choses, il n'a plus aucune autorité. Vous voyez, son autorité est liée à l'exactitude de son message. Donc le rôle du prédicateur n'est pas d'ajouter une voix à celle de la Bible, mais de donner voix à la Bible. Et même quand Paul dit à Tite, par exemple, en Tite 2.15, « Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise », le pasteur doit exhorter, il doit reprendre, mais il dit ces choses. Pas n'importe quoi, ces choses. Il doit être pour chacun ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Ça, c'est un Thessaloniciens 2, 11 et 12. Mais son autorité vient de la parole de Dieu, est toujours liée à la parole de Dieu. Mais le danger et que beaucoup disent qu'ils parlent de la part de Dieu. Et encore, là, ils ont des vidéos sur YouTube, et ils disent qu'ils parlent de la part de Dieu. Et j'aimerais vous montrer un exemple de cela, que dans ma lecture, j'ai trouvé ce matin. Jérémie 28. C'est une histoire intéressante ici. Donc, dans l'Ancien Testament, Jérémie portait un joug sur son cou. Et comme une prophétie visible. Il disait, c'est ainsi que Israël va être sous le joug de Babylone. Voilà, c'était quelque chose de très visuel, très frappant. Et Jérémie 28, premier verset, « Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le cinquième mois, la quatrième année, Anania, fils d'Azur, prophète, c'est un prophète, le Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, donc nous sommes dans le temple, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. » Donc imaginez un peu la scène, hein, dans le temple, devant les sacrificateurs, tout le monde écoute, le peuple est là, et c'est un prophète connu et reconnu comme tel qui va maintenant parler, adresser. Jérémie, les sacrificateurs, probablement le roi et le peuple. Et notez dans quel nom il va parler, verset 2. « Ainsi parle qui ?» l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voilà toute la confusion. Un prophète qui parle au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il dit, je brise le joug du roi de Babylone. Hein, donc, Jérémie est là avec ce joug et il dit, l'Éternel dit, je vais le briser. Encore 2 années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nébuchadnétsar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Vous rappelez, il est venu en 3 vagues. Hein. Première vague, il prend Daniel, il prend beaucoup de choses du temple, mais il ne détruit pas encore le temple. Et là, donc, ce prophète est en train de dire, l'Éternel dit que dans moins de 2 ans, il va tout ramener. Et je, donc c'est l'Éternel qui parle, hein, selon ce prophète en tout cas. « Je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, tous les captifs de Juda, ça inclut Daniel et ses amis, qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. » Verset 5. « Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète. » Donc, vous voyez, c'est Jérémie le prophète qui répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs de tout le peuple, qui se tenaient dans la maison de l'Éternel, encore ils veulent que la scène reste là devant nos yeux. Et Jérémie le prophète dit quoi? J'aime bien sa réponse ici. Il dit « Amen !» Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Alors juste entre parenthèses, quand il dit « Amen, que l'Éternel fasse ainsi », ceci nous donne une bonne idée de ce que veut dire l'usage de ce mot « Amen ». Jérémie désire sincèrement que ce soit le cas. Même s'il sait que l'Éternel a prévu le contraire, que ce soit ainsi, « Amen ». Il ajoute son « Amen ». Et encore dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 14, je crois qu'il va dire, il va parler de la prière, il dit, mais il faut prier dans la langue que comprenne tout le monde pour que ceux qui écoutent puissent dire Amen. C'est une bonne chose quand quelqu'un prie, qu'on dise après Amen, qu'il en soit ainsi, que l'Éternel fasse, comme il dit ici, que l'Éternel fasse ainsi. Jérémie était souvent accusé, ou à plusieurs reprises en tout cas, en fait, d'être un traître, d'être du côté du roi de Babylone, de vouloir même vendre son peuple au roi de Babylone. Et je crois que Jérémie ici prend soin de démontrer qu'il n'est pas ami du roi de Babylone. Ce n'est pas qu'il désire la destruction de Jérusalem. Il prêche un message qui est dur pour lui en fait. Mais il doit le prêcher quand même. Et donc il dit verset 7, « Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles, aux oreilles de tout le peuple, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, comme tu le fais, hein, c'est l'idée, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Et je crois que Anania a beaucoup de confiance en soi. Hein. Je ne pense pas qu'il invente ici. Et on connaît dans une autre histoire où c'est le prophète Michée qui vient, il y a 400 prophètes qui vont prophétiser au roi Achab. Il est expliqué que, en fait, c'est un esprit trompeur de la part de l'Éternel qui les a envoyés. Donc, Anania, si vous voulez, il est convaincu de dire, dans 2 ans, vous allez voir, l'Éternel va tout ramener. C'est qu'il est quand même convaincu, quelque part. Parce qu'il sait que dans 2 ans, ça va être démontré, soit pour du vrai, soit pour du faux. Et regardez ce qu'il fait au verset 10. Alors, Anania, le prophète, il enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, et il le lance par terre et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, Ainsi parle qui ? L'Éternel. C'est comme s'il y a une autre prophétie. C'est ainsi que dans 2 années, il donne voix à l'Éternel ici. Je briserai de dessus le coup de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie, il n'a plus rien à dire. Il s'en va. Et après que Hanania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Hanania. Il faut lire parce qu'il faut connaître la fin de l'histoire. Tu as brisé un joug de bois, apparemment, parce que ça s'est cassé. Mais tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La même parole que Hanania a utilisée. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Hanania, le prophète, écoute Hanania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Et c'est là le grand danger. C'est que ça inspire une fausse confiance aux gens. Et c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Maintenant, on n'a qu'à attendre pour voir si Hanania a raison ou si Jérémie a raison. Verset 17 dit, Hanania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Je crois que nous étions dans le 5e mois, donc 2 mois plus tard, il est déjà mort. Alors, je lis tout cela pour démontrer qu'on peut parler au nom de l'Éternel sans que cela soit vraiment le cas. Sans que cela soit vraiment le cas. Et c'est pour ça qu'il faut ces 3 verbes, il faut pouvoir les éprouver, etc. Mais revenons à notre texte et on va terminer avec cette 3e appellation. Ceux qui menacent la pureté de l'Église, ils sont mauvais. C'est la qualité que Dieu leur donne, Jésus leur donne. Ils s'attribuent une autorité doctrinale que Christ ne reconnaît pas. Et ils sont quoi, troisièmement? Ils sont menteurs. Menteurs. Alors, n'oublions pas qu'ils se présentent comme de vrais apôtres de Jésus-Christ. Et parfois, ils sont convaincus, comme Hanania, t'es certainement convaincu d'avoir l'audace de dire 2 ans, une prophétie si claire, mais ils sont quand même menteurs. Hanania était menteur, même sans peut-être savoir l'être, mais j'imagine qu'il le savait. Et Jésus est en train de dire, il y a dans des églises, au milieu des églises, des personnes comme cela. Et il faut être vigilant. Quelque part, Jésus désire que son Église éprouve et rejette. Et Jésus voit ça. Et dit, il approuve. Donc ça c'est le danger qui menace la pureté de l'Église. Et la prochaine fois nous verrons, alors quelle est donc la réaction à avoir contre ce danger. Prions notre Père. Oh Dieu, nous savons qu'en tant que des hommes et des femmes pécheurs, nous sommes facilement induits dans l'erreur. Nous avons des motivations, enfin notre chair en tout cas, des motivations pernicieuses qui désirent l'erreur. Mais quelque chose en nous qui n'aime pas la justice et la droiture et la pureté. Et nous confessons cela comme un péché. Et nous désirons que tu nous purifies. Nous voulons que la vérité soit au fond de nos cœurs. Et nous prions que tu gardes cette Église dans l'avenir, pure, pour ta gloire et pour son bien et aussi pour le bien du monde autour de nous. Et nous prions ces choses aussi, pas seulement pour notre bien, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes convaincus qu'il est glorifié quand nous sommes purifiés. Et donc c'est à sa gloire que nous te supplions d'envoyer ton esprit pour nous aider à nous marcher dans la vérité. Amen.